Bonjour. Ah voilà, le micro marche. Bon, ben aujourd'hui, le MUCEM fête ses 10 ans, 2013-2023. Et ce sont aussi les 10 ans d'un partenariat avec une association qui s'appelle Histoire vraie de Méditerranée. Donc cette association collecte des petites histoires sur le pourtour de la Méditerranée dans toutes les langues. Donc la Méditerranée, ce n'est pas un espace homogène, c'est un espace, on va dire, mosaïque. Et nous, notre association, elle crée des ponts entre les différents espaces de ce lieu qu'est la Méditerranée. Donc ces petites histoires tentent de donner la parole à des gens qui ne l'ont pas habituellement, parce qu'ils ne parlent pas nos langues ou parce qu'ils sont empêchés de parler pour des raisons diverses. Donc ce matin, on a entendu des histoires vraies du dedans. La parole avait été donnée à des gens qui étaient en prison, qui parlaient en rom ou en arabe. Donc il y a eu des gens qui parlaient ces langues-là et des traducteurs qui ont collecté ces textes, qui ont été ensuite confiés à des écrivains et ça a été restitué. Et puis il y a eu des histoires vraies des petites îles de Méditerranée. Marine Vlaovic a recueilli très récemment des histoires dans la petite île de Ischia, qui est près de Procida, près de Naples. Donc on a entendu un petit peu d'italo-napolitain. Et puis les traductions ont été faites par Marine Vlaovic et les lectures ont été faites par Daniel Mesguich déjà ce matin pour ces histoires-là. Et cet après-midi, Daniel Mesguich, que nous remercions beaucoup, va lire d'autres histoires qui ont été collectées au Liban et ailleurs, dans d'autres lieux de Méditerranée. Et si vous voulez les entendre ou les voir ou les lire, on a aussi un site internet. https://histoirevraie.org. Mais vous tapez histoire vraie sur votre moteur de recherche et vous nous trouvez aussi. Donc merci à Daniel Mesguich de ces jolies lectures qu'il nous propose.
La Méditerranée est une bouche gercée dont la lèvre supérieure s'exprime en latin et la lèvre inférieure en arabe. Quand elle essaie de reprendre son souffle, elle a mal, ça lui pique, car il y a toutes ces guérites, ces barbelés, ces checkpoints qui l'empêchent de respirer. Mais cette mer est peuplée d'habitants pleins de ressources, génies de mille et une ruses capables de se faufiler à travers chacune des grilles que les autorités dressent devant eux. Le haschich venait d'Algérie, m'explique Amar quand je le rencontre à la Goulette, le port de Tunis. Et j'avais une technique pour lui faire traverser la frontière. D'abord, je dressais un âne pour qu'il reconnaisse le chemin. Toujours au début, il partait sans le zetla, avec les moutons, le berger. Il faisait 2-3 fois l'aller-retour pour s'habituer, et 3 kilomètres côté tunisien et 3 kilomètres côté algérien. Toujours le même trajet. Quand il était bien dressé, après, je calculais le temps en fonction de la vitesse de l'âne. S'il prenait 2 ou 3 heures, en plus, j'avais recruté des ânes chômeurs, quasiment toute l'année, qui travaillaient que 2 mois par an, l'hiver, pour ramener le bois de chauffe. Les paysans me les louaient contre quelques dinars. Ensuite, j'avais acheté un Walkman. J'enregistrais la voix du maître de l'âne. « Hu, hu, je marre, mon frère. Tic-tac, tic-tac, tic-tic. » Je collais le Walkman sous la peau de l'âne, entre les jambes, que ça ne se voit pas, et je lui installais le casque sur les oreilles. Pendant 2 heures, lui, il écoutait son maître. « Hu, hu, tic-tic-tac-tac, tic-tac. » Et l'âne, comme ça, avançait dans les dunes. Et moi, au bout, tranquille, à fumer mon bédo. Puis l'âne arrivait, je déchargeais la marchandise, et direct demi-tour, rewind, changement des piles, et petite tape jusqu'à l'envoyeur. Bon, par moments, comme tout le monde, l'âne tombait en dépression amoureuse, ou bien devenait lucide, comprenait le stratagème, qu'on se moquait de lui. Alors, il faisait demi-tour, ou il allait se plaindre aux flics. Mais c'était rare. Les ânes sont moins bêtes qu'on pense. Allah y a la loi. La vie, c'est juste une question de piles. Je rencontre Samira un soir à Amana, une petite bourgade à 45 minutes de Beyrouth, dans les montagnes. En ce mois d'avril 1976, première année de la guerre civile, me précise-t-elle, Amana a été vidée de l'armée libanaise et c'est l'armée syrienne qui est venue prendre sa place pour pilonner Beyrouth avec ses canons 135. Et nous, les Libanais d'Amana, nous sommes restés chez nous pour éviter les pillages et nous attendons donc docilement la riposte libanaise. Notre villa est installée en dehors du village, un peu isolée. Et des officiers occupent une des trois maisons de famille laissées vides, à côté de la nôtre. Et il faut dire aussi que nous sommes au printemps. Devant chez nous, nous avons de magnifiques peupliers qui, au printemps, forment leurs fleurs, comme en coton. Pour mon mari, jardinier méticuleux, ces peupliers salissent son jardin. Et chaque année, il promet de couper ses arbres. Moi, je lui rétorque que non, il ne faut pas les couper, car ce sont de beaux arbres et ils nous protègent du soleil. Et on ne peut pas vivre sans les arbres. C'est un sujet permanent de dispute entre lui et moi. Ce jour-là, même chanson, il s'énerve, cette guerre le stresse. Je vais faire couper ces arbres. Et moi, je lui crie, non, non. Un officier syrien vient à passer sous notre fenêtre, entend nos cris, frappe à la porte et dit, c'est la première fois que je vous entends crier, qu'est-ce qui se passe? Alors moi, oui, on se dispute. Et pourquoi? Il demande. Et moi, sans réfléchir, de colère, c'est mon mari, il va me divorcer. Alors l'officier s'adresse à mon mari. Comment, monsieur Michel? C'est pas possible, vous avez une femme superbe. Non, non, je ne le permettrai pas. Il faut réfléchir plus avant. Il ne faut pas prendre de décision aussi hâtive. Je dis, et vous savez pourquoi il veut me divorcer? Et lui, je ne veux pas rentrer dans vos... Et moi, non, non, je veux vous expliquer. Vous voyez ces arbres? Il dit, oui. Je dis, eh bien, c'est à cause de ces arbres. Il dit, ah. Alors après, je lui explique. Vous voyez toutes ces fleurs, là? Ça va tomber en coton. Ça le gêne. Il dit, ah bon? C'est ça la raison? Je dis, oui, c'est ça la raison. Les arbres sont de 3 étages de hauteur. Il se lève, se met au balcon et appelle ses hommes. Il les appelle en criant, Ayawen, animaux! Alors tous répondent en même temps et se rassemblent devant notre jardin au garde à vous. Animaux, dit l'officier, vous voyez ces arbres? Vous voyez toutes ces fleurs qui sont encore en bouton, qui font comme des grappes? Vous les voyez? Et tous de répondre, oui, commandant, on les voit très bien. Alors lui, eh bien, vous allez me les cueillir, toutes ces fleurs, et me les mettre dans des sacs. Après ça, plus personne n'a parlé, et l'armée syrienne s'est mise au travail. Les soldats ont grimpé dans nos peupliers, et je les regardais cueillir délicatement chacune des fleurs de coton, comme si c'était pour les offrir à leurs fiancés de retour au pays. J'aurais aimé les prendre en photo, tous ces hommes à présent éparpillés en grappes, 3 par 3, sur nos arbres, mais je n'ai pas osé. Ça n'aurait pas été gentil. Quand je pense à cette histoire, je suis réconcilié avec tout ce que l'armée syrienne a pu faire subir au Liban. Et je me dis qu'il a quand même eu du cœur, cet officier. Il a eu peur pour notre couple. Tanger, janvier 2012. Ma grand-mère, explique une élève de la classe de Nora, me racontait qu'à l'époque où ils ont fait les premiers passages piétons dans le centre-ville, le voisin a expliqué qu'il fallait bien que maintenant elle traverse sur les plaques blanches. Et il lui a dit comment elle devait faire, plutôt que de traverser n'importe où, comme elle en avait l'habitude. Le lendemain, ma grand-mère sort faire des courses. Quand elle arrive au bord du trottoir, face au passage piéton, elle relève sa djellaba, pose un pied sur la première plaque, l'autre pied sur la suivante, toujours en tenant la djellaba relevée, comme si la rue était une rivière et qu'elle marchait sur des cailloux. Je m'appelle Madame Aza. Je suis professeure à l'Alliance française depuis plus de 35 ans et je suis musulmane. Mais je ne suis pas voilée. La semaine dernière, c'est la fête de Pâques. J'appelle un taxi et je lui dis de m'emmener à l'Alliance. Puis, avant d'arriver, je lui indique que c'est à droite. Mais lui, il me dit à l'église, c'est bien ça, pour faire votre prière. Je lui dis non, non, à droite. Mais il dit qu'il ne comprend rien à ce que je dis parce que je suis une rawayaga, une étrangère. Sur la route, il y a la cathédrale et il insiste pour me déposer pour que j'aille communier. Il se gare devant l'église, halas, faites votre prière. Je lui dis non, je vais plus loin. Finalement, il redémarre, mais me répète, mais tu n'es pas chrétienne? Tu ne veux pas faire tes prières? Pourquoi? Je lui dis, monsieur, je suis musulmane et je vais au travail. Ah bon, c'est incroyable, mais tu es étrangère. Je dis non, je suis égyptienne. Ah bon, pardon, excuse-moi. J'ai 50 ans, mais lui me parle comme à une jeune fille, parce que je porte des jeans. Et ici, les femmes âgées sont obèses, elles mangent beaucoup de poissons, alors il a cru que j'étais soit étrangère, soit une jeune fille. C'est pour ça qu'il m'a traité comme ça. À l'époque, mes parents ne m'ont jamais dit d'être voilé, mais maintenant tout le monde porte le voile. Et les gens me disent « Rawagaya, va à l'église, pas à la mosquée !» Ça nous fait bien rigoler. Je suis devenue l'étrangère de Port Saïd, alors que je suis née et que j'ai toujours vécu ici. « Pourquoi tu n'es pas rentrée à l'église pour faire tes prières, Madame Aza ?» Les collègues me disent ça pour rire. Et moi, je réponds « Parce que j'ai du travail. » Marseille, juillet 2011. L'histoire se passe rue Coutellerie, en 1986, précisément devant le bar Honoré, à 100 mètres du Vieux-Port, me raconte Kader, qui est né et a grandi dans le quartier de Belzunce. Un Marocain, fraîchement débarqué, sort de l'hôtel en face et entre dans le bar. « J'ai du shit à vendre. Est-ce que tu serais intéressé ?» Le patron, qui est lui aussi Marocain, lui dit « Oui, je connais quelqu'un. Reviens dans une demi-heure. Je vais te le présenter. » Le gars remonte dans sa chambre. Pendant ce temps, le propriétaire du bar va voir deux gars du quartier, leur dit qu'il y a de l'argent à se faire. Un type va sortir de l'hôtel, enlever lui ce qu'il a sur lui et penser à moi. Le gars sort de l'hôtel. À peine dehors, les deux jeunes passent, lui mettent le gaz lacrymogène, tapent dans les jambes, lui arrachent sa sacoche et partent avec. Le gars remonte en courant dans sa chambre, choqué par ce qui vient de lui arriver. Il se rince comme il peut et redescend. Le patron du bar. « Eh bien, ça fait un moment qu'on t'attend. » Le Marocain. « Je viens de me faire agresser devant ton bar. » Le patron. « Moi, j'ai rien vu. »« Bon, qu'est-ce qu'ils t'ont pris, les gars ?» Le Marocain. « Ils m'ont pris ma sacoche avec 2000 francs et mes papiers. » Le patron. « Et ton shit ?» Le Marocain. « Ah, mon shit, ils l'ont pas pris. » Le patron. « Où est-ce qu'il est, le shit, alors ?» Le Marocain. « Le shit, il est sur moi. » Un jeune assis devant la porte, qui a tout entendu depuis le début, s'approche du Marocain en lui criant « Police !» Puis il lui met un grand coup en pleine face. Le Marocain se retrouve par terre. Le jeune lui met le pied sur le cou, comprend vite où est caché le shit, lui arrache les 2 kilos collés au ventre et va se perdre dans les petites rues. Le gars retourne à son hôtel, se re-nettoie, enlève les traces de sang, revient dans le bar. Il dit au patron « Je me suis fait agresser dans ton bar, tu as bien vu là ?»« Attends, dit le patron, tu es rentré avec du shit dans mon bar, c'est quand même grave ça. Tu as pris le risque de me faire fermer ?» Tu t'es fait voler tes papiers il y a 3 heures, ton shit il y a 1 heure, et maintenant, qu'est-ce qui te reste ? Oh, dit le Marocain, il me reste encore 2000 francs dans la chambre. Bon, dit le patron, va dans ta chambre, mets-toi à l'aise, et tu redescends un peu plus tard. Le gars remonte dans l'hôtel, le patron va voir 2 autres gars. Il y a un gars, dit-il, qui va descendre de l'hôtel avec 2000 francs. Attrapez-le et pensez à moi. Le gars redescend, le pauvre. Il rentre dans le bar, 2 gars lui sautent encore dessus, le traînent à la porte à côté du bar, le font rentrer dans un studio et il commence à le torturer carrément avec des briquets. Des briquets sur les pieds. Où est-ce que tu as eu du shit ? Tu as du shit ? Tu as de l'argent ? Tu as ceci ? Tu as cela ? Le gars, en état de choc, complètement esquinté, se fait dépouiller les 2000 francs qui lui restent. 4 heures du matin, les 2 types qui lui ont fait vivre cet enfer le jettent dans la rue. À 7 heures, l'hôtel est fermé. Il ne peut plus réintégrer sa chambre et il n'a plus de papier, plus d'argent, plus rien. En désespoir de cause, il se rend au commissariat et il raconte son histoire. Voilà, je suis arrivé ce matin du Maroc, je me suis fait voler mes papiers, mon argent, on m'a torturé et en plus, on m'a volé 2,5 kilos de shit. Les policiers, c'est une histoire un peu belge là, tu nous prends pour des cons ou quoi ? Lui, non, c'est la vérité. Il lui demande dans quel établissement c'était, à quel endroit. Il leur raconte l'endroit et effectivement, c'est un endroit craignos qu'ils connaissent. Bon. Ils se disent « On va faire une descente, on va voir. » Le lendemain, dès l'ouverture du bar, fouille, perquisition, puis ils retrouvent le studio de torture. Le patron du bar nie tout en bloc. Il s'est fait tabasser devant mon bar, à l'intérieur de mon bar, mais je ne sais pas qui c'est, je ne savais pas qu'il avait du shit sur lui, je ne suis pas au courant de son histoire. La police commence un peu à fouiller, relève des empreintes dans le studio. Finalement, ils réussissent à remonter la piste des 2 gars qui l'ont torturé. Les 2 gars disent « Oui, effectivement, il avait du shit sur lui, mais nous, on n'a rien pris. » Finalement, le pauvre Marocain atterrit au Baumettes. Il raconte son histoire. Les gars en prison se foutent un peu de lui, mais il y a quelques personnes du Maghreb qui sont solidaires. Son histoire les touche. Surtout qu'il voit bien qu'il est un peu trop fragile pour faire ces choses-là, qu'il s'est trompé, qu'il n'est pas taillé pour ça. Un gars lui demande s'il veut fumer. On lui passe un morceau de shit. Et là, le Marocain reconnaît le shit. C'est le sien. Une semaine après, le shit était déjà en prison. Ce shit qu'il voulait vendre pour se faire un peu de maille et retourner vivre tranquille dans le Rif. Après quelques mois de prison, ils l'ont expulsé vers le Maroc. Ça a été un séjour bref. Il n'a pas pu profiter de la ville. Il y a même eu un article dans la presse. Il porte plainte parce qu'il s'est fait voler son shit. Voilà. Il a tout connu à Marseille. Il a eu la totale. Mon père me raconte un jour, nous dit Tahar de Tunis, cette histoire d'enfance. Il doit avoir 11 ans. Après la Seconde Guerre mondiale en Tunisie, le gouvernement s'est mis à installer l'électricité, poteaux, fils électriques, tout le nécessaire. Son père lui dit « Écoute-moi bien, mon fils, tu fais bien attention aux fils électriques. Ces fils peuvent te tuer. » Mais mon père n'écoute pas les conseils de son père et part jouer dans les chantiers près de lui. On s'amuse, me raconte-t-il, et bien sûr, moi, je touche au fil. Je ne fais pas attention. Rien ne se passe. Alors, une fois, ça arrive. Je reçois un choc terrible, une décharge. Et là, j'ai vraiment peur, car je me souviens de ce que m'a dit mon père. D'abord, je suis étonné d'être en vie et pas mort sur le coup. Je vais voir les amis et je leur dis, écoutez-moi bien tous, je vais vous dire un secret. Ce matin, pour ma peine, j'ai été frappé par les fils électriques et donc je vais bientôt mourir. Mais surtout, ne le dites pas à mon père. Puis je disparais et m'enferme dans ma chambre à attendre la mort toute la soirée. Mais la mort ne vient pas cette nuit-là. Je me dis que ce sera pour demain. J'attends patiemment, mais le lendemain non plus, elle n'est pas au rendez-vous. C'est ainsi que mon père a dû attendre je ne sais combien d'années pour qu'enfin la mort vienne. Tel Aviv, décembre 2013. Voilà comment mes parents se sont rencontrés, me dit Edgar. À l'époque, mon père était électricien dans le bâtiment à Tel Aviv. Il travaille à la tâche beaucoup, puis quand il reçoit sa paye, il la dépense entièrement jusqu'au dernier shekel. Ensuite, il se remet à chercher du boulot. Mais avant ça, il se retrouve avec ses potes au restaurant, il se saoule, fait la java jusqu'à ce que tout le monde tombe. Mon père est celui qui a le plus d'endurance. C'est celui qui s'effondre le dernier. Ce soir-là, il vient de toucher sa paye et ils vont dans un resto arménien près de la plage. Il y a un orchestre de manouches qui joue toute la soirée. Mon père est saoul, heureux. Ses amis rentrent les uns après les autres, mais lui veut poursuivre la fête. Quand à un moment, les proprios décident de fermer le restaurant, il propose aux manouches de les payer pour qu'ils restent avec lui jouer leur magnifique musique. Il y a aussi un petit singe avec eux, parmi les violons. Ils s'en vont dériver vers la plage. Mon père dit qu'il a besoin de pisser et demande aux manouches de faire une belle musique d'accompagnement pour qu'il soit inspiré. Donc, il pisse tranquillement, en musique, sur le mur proposé à lui, quand, soudain, la police débarque et se met à arrêter tout le monde. Ce n'est pas n'importe quel mur. Apparemment, il pisse sur je ne sais plus si c'est l'ambassade française ou l'ambassade américaine. Mais les gens à l'intérieur ont cru à un acte politique, surtout avec l'orchestre, et ils ont appelé la police. Les policiers sont au travail, donc, et le seul qui se laisse faire, c'est mon père, parce qu'il est saoul, il ne résiste pas. Et les policiers le mettent provisoirement dans une de leurs voitures. Les manouches, eux, qui sont sobres, ne se laissent pas faire. Le petit singe mord un des policiers. C'est la grande bagarre. Et mon père est là dans la voiture de police. Il attend. Petit à petit, des gens se massent autour de la scène pour voir ce qui se passe. Et comme personne ne s'occupe de lui, mon père sort de la voiture pour se dégourdir. Et c'est là qu'il voit cette femme splendide qui regarde la scène curieuse. Il s'approche d'elle. Et comme il est électricien, il a toujours un crayon de papier coincé derrière l'oreille. Il s'en saisit et lui dit « Excusez-moi, mademoiselle, je suis le détective Kerret. Pourriez-vous m'expliquer, selon vous, ce qui se passe ici ?» Elle répond que non, qu'elle vient juste d'arriver. Alors il dit « De toute manière, je dois prendre vos coordonnées. S'il vous plaît, mademoiselle, votre nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. » Elle s'exécute, mais juste quand il en a fini de noter, deux policiers lui sautent dessus, le frappent, lui mettent les menottes et le ramènent dans la voiture de police. Ma mère rentre chez elle affolée, paniquée, et explique à son amie de chambre qu'elle vient de donner l'intégralité de ses coordonnées à un serial killer. Le jour suivant, mon père est dessoulé, la police le relâche, et il se met à courtiser ma mère, à l'appeler. Ma mère refuse de le voir, car elle est sûre que c'est un criminel, mais ils parlent tous les deux polonais, yiddish. et il lui fait régulièrement livrer des fleurs. Finalement, elle cède, consent à le rencontrer, découvre qu'il n'est pas si méchant que ça, et assez vite, le mariage est prononcé. Beyrouth, juin 2012. Café Démo dans le quartier de Jemaiseh. Omar commande deux bières et deux Jack Daniels. Cette histoire a lieu, me dit-il, près du village d'un ami dans la montagne libanaise. Dans ce village, il y a un cimetière. Un soir, des jeunes complètement bourrés viennent déterrer le corps d'une femme, une vieille dame qui est morte il y a quelque temps sans s'être mariée. Ça fait un bon bout de temps que cette femme est enterrée, mais ses os tiennent encore un peu de chair, dont le squelette est encore assez rigide. Les jeunes sortent la dame, l'habillent, lui mettent du rouge à lèvres, une cigarette à la bouche, et la promènent en mobylette dans tout le village en chantant des chansons. Le lendemain, ça fait un énorme scandale, surtout que les jeunes ont posté les photos sur Facebook et les réseaux sociaux. Ils sont attrapés, incarcérés, les journaux en parlent. Mais une vieille femme qui est du village dit « Pourquoi tout ce remue-ménage ?» Elle non plus, comme la morte, ne s'est jamais mariée. C'était une très belle jeune femme qui a refusé les premiers prétendants et finalement qui a vieilli seule. « Mais pourquoi tout ce remue-ménage » dit-elle. « Moi, quand je vais mourir, j'aimerais bien que des jeunes gens viennent me sortir de mon tombeau, m'habillent, me baladent, me chantent des chansons de mariage. » L'exemple de ce scandale lui avait donné espoir. Et enfin, Oran 2012. Il y a aussi en Méditerranée de nombreux types de frontières et guérites mentales que nous nous sommes construits en fonction des conflits coloniaux, des guerres d'indépendance. Le Méditerranéen ne vit pas toujours à l'endroit qu'il souhaiterait. L'histoire l'emporte de rive en rive au gré de ses appartenances nationales, confessionnelles, communautaires. En septembre 2006, me raconte à Oran Abdelslam, nous recevons un groupe de 80 pieds noirs, principalement de Saïda, à 170 km au sud d'Oran, une petite ville au commencement du haut plateau, qui se sont mis en tête de venir visiter les lieux de leur jeunesse. Des touristes en Algérie, donc. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Le groupe arrive vers 17h à l'aéroport d'Estenia. Nous opérons par bus de 20 personnes avec 4 guides et dès qu'ils prennent place, on se dirige vers Saïda, où ils sont attendus. Durant le trajet d'un peu plus de 3 heures, l'ambiance est tendue. Les gens sont pleins d'appréhension. Imagine qu'ils ont quitté le pays il y a une cinquantaine d'années, dans des conditions dramatiques, après une guerre qui a duré 7 ans, et qu'ils y reviennent après une longue période de terrorisme, les années 90, les années noires. Les médias ont bien fait leur boulot de l'autre côté de la Méditerranée et ils craignent d'être victimes d'attentats. Sans parler de Benoît XVI, qui vient d'être élu pape et a fait des déclarations qui ont été très mal prises par le monde musulman, parlant de violence dans l'islam. La rue musulmane s'est mise à gronder. Il y a eu même des manifestations en Égypte. Et bien sûr, nos intégristes algériens ont enfourché la vague pour attiser la haine dans cette ambiance. On arrive tout de même à Saïda et finalement, tout se passe bien. Ils sont très bien accueillis par la population. À l'hôtel, un comité d'accueil les attend, dont des anciens de Saïda qui viennent les saluer. Certains retrouvent un ami, une connaissance. Dès le premier jour, on a comme ça une dizaine de musulmans qui sont tout le temps dans le groupe. Ils sont à l'hôtel, participent avec les pieds noirs pour aller faire des achats, les invitent chez eux pour le couscous et ils suivent toutes nos activités. Le troisième jour, nous allons visiter le vieux Saïda. On est à la mi-septembre, sur le haut plateau. Le soleil a fait son boulot tout l'été, le paysage est lunaire. Sauf un ravin qui s'ouvre juste en bord de route. Ce ravin est un petit paradis. Un ruisseau coule au fond et donne naissance à une verdure luxuriante et des arbres gigantesques, de l'herbe, des fleurs. Les gardes forestiers ont même aménagé un petit zoo. Il y a des magots, des gazelles. On se balade dans cet endroit bien frais et à un certain moment, un petit groupe d'une demi-dizaine de personnes se détache et grimpe sur l'autre versant du ravin. Le groupe est emmené par une dame que personne n'avait remarquée auparavant. Vous savez, dans un groupe, il y a ceux qui apparaissent au premier plan et il y a ceux aussi qui font de la discrétion une manière de vivre, qui sont dans le fond du bus, qui passent invisibles. Elle en faisait partie. Elle grimpe le versant, s'arrête, se retourne et prend la parole. À ce moment-là, elle devient remarquable. Elle a une voix qui porte et la centaine de personnes qui sont là l'entendent très bien. Surtout qu'elle développe un discours qui nous a pris aux tripes. « Voilà, dit-elle, moi, je ne suis pas de Saïda et c'est la première fois que je mets les pieds en Algérie. » Mais mon mari, lui, était de Saïda. Il était juif et il était aussi facteur, ce qui lui permettait de traverser toutes les communautés, chrétiennes, juives, musulmanes. Et il avait des amis un peu partout, car c'était un joyeux garçon. Si aujourd'hui je suis là, c'est parce qu'Edmond, mon mari, m'a fait promettre sur son lit de mort de venir répandre ses cendres ici. Elle a une urne dans les mains. Nous, on accuse le coup. Il y a même des femmes qui ont les larmes aux yeux. Elle reprend. Ce n'est pas un jour de tristesse, au contraire. Parce que Edmond était un joyeux garçon. Il aurait aimé que ça se passe dans la joie. Surtout qu'aujourd'hui, il va avoir le bonheur de revenir sur sa terre natale. Elle ouvre l'urne et elle commence à répandre les cendres. Dans ce groupe de 80 personnes, il y en a une vingtaine peut-être qui sont de confession juive. Et ils entonnent un air, mais juste l'air sans les paroles. C'est le Kaddish, la prière des morts. Et cet air accompagne la dame jusqu'à ce qu'elle termine de répandre les cendres. Quand elle a fini, elle commence à redescendre. Et à ce moment-là, 3, 4, 10, puis très vite une cinquantaine de voix s'élèvent. Ce sont les chrétiens du groupe qui se mettent à chanter. Ils fredonnent un air. J'ai appris par la suite que c'était l'hymne à la joie, mais juste l'air, sans les paroles. Jusqu'à ce qu'elle arrive au fond du ravin et qu'elle rejoigne le groupe. À ce moment-là, entre nous passe une petite fraction d'éternité de silence. On est tous tétanisés. Et puis, un des vieux musulmans, qui était tout le temps avec nous, nous interpelle et nous dit « Et alors, mes frères, nous les musulmans, on ne sait plus enterrer nos morts? Allez, Al-Fatiha !» Et on a tous récité la première sourate du Coran en hommage au mari de cette dame.